Allez, c'est
très
parti.
Bien. C'est parti.
C'est parti. C'est parti. Donc.
Première question.
Oui, vas-y.
La fabrique des mots. On peut pas se tromper, le bandeau nous le dit, n'est-ce pas ? La grammaire d'Eric Orsenna est une chanson douce. La fabrique des mots se situe donc dans la lignée directe de La grammaire est une chanson douce, du livre sur le subjonctif, du livre sur l'accentuation. Il y en a un autre, non, c'est la série.
Si, la oui. Ponctuation.
La ponctuation, voilà. La ponctuation.
Ah oui, on est systématique.
Donc, c'est une série qui prend fin avec les questions de lexique, de vocabulaire. Est-ce que ça veut dire que c'est par ordre décroissant d'importance dans votre esprit, c'est-à-dire que la grammaire est plus importante, l'accentuation, la ponctuation, et que le lexique n'arrive qu'en dernier lieu, ou est-ce que c'est pour d'autres
raisons ? Non, c'est croissant.
C'est croissant.
Il peut y avoir une autre logique.
Oui.
Et puis, il peut y avoir pas de logique du tout. Aussi. Non, c'est que j'avais travaillé sur la grammaire, donc les liens entre les mots. Puis j'avais travaillé sur les accents, la ponctuation, etc. Et puis je me suis rendu compte que je n'avais pas vraiment travaillé sur les mots. Et qu'à l'académie, on travaille pas sur la grammaire, mais on travaille sur les mots. Et j'ai eu envie d'écrire ce livre quand, à une séance du dictionnaire, on a examiné le mot « réussir ». Et donc, je me prends d'un amour croissant pour l'étymologie, l'origine des mots. Et réussir, c'est formidable. Parce que réussir, dans notre conception, quand on a réussi, on est arrivé. On est arrêté. Or, l'origine de réussir, c'est pas du tout ça. Parce qu'il y a un petit préfixe « ré », mais après, il y a un verbe italien qui s'appelle « uscire » et « uscita », c'est la sortie. Donc, à l'origine, réussir, c'était trouver la sortie, n'être pas loin de la sortie. Alors ça m'a énormément intéressé. J'ai dit, mais c'est passionnant ce mot réussir, parce qu'au fond, ceux qui ont réussi, ils sont aussi pas loin de la sortie. Donc il y a une logique. Et à partir de réussir, je me suis dit, mais les mots, c'est fascinant. Et donc, j'ai repris mes petits manuels de classe de 6e, et je me suis rendu compte de ce, c'était très intéressant, les préfixes, les suffixes, tout ça. Et il y a une autre origine à ce livre, c'est que Jacqueline de Romilly, comme vous savez, qui était la grande dame de la littérature et de la pensée grecque, est morte. Et c'était mon amie intime. Et je me souviens, la première fois que je l'ai rencontré pour faire ma visite traditionnelle pour être candidat à l'Académie française, on parle, et j'ai eu le malheur de lui dire deux phrases terribles. La première, c'est que j'avais fait très peu de grec, déjà elle grimaçait, mais c'était rien par rapport à la deuxième grimace, quand je lui ai dit que j'adorais le latin. Elle dit « Quoi ? Vous aimez cette langue qui est tellement sommaire, qui est tellement vulgaire, cette langue de juriste, d'agriculteur, de maçon, alors qu'il y a une telle élégance de la pensée grecque, etc. » Et là, j'ai vraiment cru que je serais jamais reçu à l'Académie. Et donc, j'ai eu l'idée, et ça a été quasiment au début du livre, de faire s'engueuler deux sœurs, l'une passionnée par le latin et l'autre passionnée par le grec. Et les livres, c'est comme ça. Vous avez un thème général, et puis vous avez des personnages qui vous arrivent. Et c'est un peu comme ça que c'est arrivé. Et puis il y a d'autres sources qui sont venues très vite se joindre à ce premier filet. Et notamment, je suis très gourmand de toutes les expressions, et notamment les expressions qui viennent, comme on dit, des cités ou des quartiers. Et donc il y a des expressions qui me font extrêmement rire. Vous savez que les policiers ont reçu toutes sortes d'appellations depuis toujours. Ça a été le cœur des expressions argotiques. Et alors, les policiers, on les a souvent appelés des poulets, d'où l'extension à des nuggets. Donc, tiens, voilà les nuggets. Et alors, il y a une expression encore plus drôle qui m'amuse vraiment beaucoup, c'est que les nuggets vont par 6. Et les policiers aussi, dans les cars d'aujourd'hui, vont par 6. Donc, dans certains quartiers, quand on voit un car de police arriver, on dit « Oh, ou les nuggets, ou tiens, une boîte de 6. » Ça, ça m'amuse énormément parce que c'est ce que j'aime dans la langue, c'est-à-dire quand on est concret, qu'on est drôle et qu'on dit les choses. Il y a une autre expression que j'ai captée et je suis très, très demandeur de nouveautés. Parce que la langue est vivante et la langue, c'est comme aller pêcher au papillon ou pêcher dans le bassin. Et on prend différents poissons en fonction de la taille des filets ou la taille des hameçons. C'est quand vous avez un groupe de gamins qui se baladent en bas des immeubles et qui voient leurs copains au deuxième étage et disent viens, on va faire une teuf et tout, viens, on va faire... Bon, viens. Et alors, il dit, je peux pas ce soir, je suis Alcatraz. Ça veut dire qu'il est emprisonné par ses parents, il n'a pas le droit de sortir. Magnifique. Et d'une autre expression, il se trouve que ma vieille maman a un peu perdu la tête, elle est un peu à l'ouest. Et alors, il y a une très belle expression qui correspond à la réalité, et comme elle correspond à la réalité, elle a accru, s'il était possible, la tendresse un peu attristée que j'ai pour elle, qui est un peu la tête. Et je vais le mettre dans la prochaine version du livre. On dit de quelqu'un qui a un peu perdu la tête que cette personne est perchée. Alors c'est joli parce que de temps en temps, elle redescend sur sa branche et puis à d'autres moments, elle est complètement, on ne sait plus où elle est. Et voilà, ce genre de choses. Et il y a d'autres mots sans arrêt qui arrivent. Il y a par exemple un mot que j'adore, c'est le mot adolescent. C'est-à-dire un adulte qui est quand même nettement adolescent. Vous voyez, tous ces mélanges comme ça. Donc, dès que j'ai eu envie de réfléchir un peu sur la fabrique des mots, j'ai eu toutes ces histoires qui me sont arrivées. Alors, j'ai essayé d'inventer un petit fil, mais c'est de ça dont j'avais vraiment envie. Alors, et à chaque fois que je vais quelque part... On me donne des mots sans arrêt. Donc, je fais mon marché de mots aussi pour la francophonie. Vous savez qu'ils ont soit des mots qu'ils inventent complètement, par exemple, un peu comme au Québec, où ils inventent des mots magnifiques. Et au lieu de station-service, ils disent essencerie. C'est pas mal. Et on dit ça en Afrique aussi, essencerie. Ou alors, au lieu de guetter, au lieu de dire je fais attention, ils disent vigiler. L'emploi du verbe, on prend le substantif vigile et on le change en vigiler. Donc moi, je suis pour que tout ça brasse sans arrêt et qu'on trouve de nouvelles expressions qui disent le monde, parce que c'est le métier de la langue de dire la réalité. Et si ça peut être drôle, sans cesser d'être pertinent, c'est pas plus mal. Donc vous voyez, il y avait mille raisons qui me donnaient envie de faire ce livre. Voilà.
C'est pour être drôle que vous avez choisi comme véhicule le conte, et c'est-à-dire un mode de récit qui fait appel à la fantaisie, à l'imaginaire, en même temps à une certaine tradition. Ça commence par « Il était une fois ». Pourquoi avoir choisi le conte ? C'est pour rendre le récit plus accessible ? Est-ce que c'est un livre pour les enfants ?
Alors, quand on réussit son affaire avec les contes, comme c'est en dehors du temps, on ne sait pas trop quand ça se passe. Et comme c'est en dehors de l'espace, quand on réussit son conte, en général, on peut toucher tout le monde. Parce qu'un conte qui est hors du temps et hors de l'espace, il peut être lu à différents niveaux. Il se trouve que samedi prochain, je fais une lecture, partielle, mais quand même une lecture, parce que j'adore lire, et je fais une lecture du Baron Perché de Calvino. Si vous n'avez pas lu Le Baron Perché de Calvino, il vient d'avoir une réédition en poche, lisez-le, vous allez voir quel va être votre bonheur. C'est un petit garçon qui s'appelle Côme, et le petit garçon, il a un déjeuner de famille qui l'ennuie énormément, comme quand même 99% des déjeuners de famille pour les enfants, et on lui offre un plat d'escargot. Et ce qu'il déteste le plus au monde, ce sont les escargots. Donc, il s'engueule avec son père lui dit de s'en aller, le petit Côme est déjà parti, et il décide ce jour-là de monter dans un arbre et de n'en plus jamais redescendre. Donc, il passera toute sa vie dans l'arbre, il guettera, il aura un métier dans les arbres, il aura des amours dans les arbres, etc., etc. Le Baron Perché. C'est magnifique. Italo Calvino. C'est magnifique.
Et
le Vicomte Pourfendu après.
Magnifique.
C'est un conte, donc c'est pas réaliste, donc tout le monde peut y trouver son plaisir, sa liberté, et j'ai une admiration infinie pour les grands fabricants de contes, évidemment Voltaire, mais évidemment Andersen, mais évidemment Grimm, mais évidemment Borges, mais même Kafka, La Métamorphose, c'est un conte. Vous voyez, c'est tous ces récits qui s'extraient de la réalité, et c'est un peu ce qui s'est passé avec la grammaire, parce que le parcours de la grammaire a été intéressant. J'ai écrit « La grammaire est une chanson douce » pour une raison assez claire. Je ne comprenais pas les questions qu'on posait en français, en classe, à mes enfants. Je ne comprenais pas. Il y avait tellement de jargon que je ne comprenais plus. Alors, il y a eu un peu de bruit au moment où j'ai sorti ce livre. Et souvent, ce sont les grands-parents qui ont acheté le livre. Ils ont dit « Ah, ben là, c'est vraiment intéressant ». Et ils l'ont montré aux enfants qui ont dit « C'est pas mal ». Qu'ils l'ont montré aux enseignants. Et c'est évidemment pas un manuel, mais ça accompagne, ça acclimate à la grammaire, qui ont dit, ben oui, on va travailler sur ce livre, et dans des milliers de classes, on a travaillé sur ce livre. Et puis après, les parents sont arrivés. Donc, vous voyez, c'était amusant, parce que c'était les anciens, et puis les plus jeunes, et puis les profs, et puis les parents. Ce petit cheminement comme ça, dans l'imaginaire et dans l'appropriation d'une histoire. Donc, vous savez, c'est quand même merveilleux, cette aventure que je vis, puisqu'il y a les romans. Et là, je suis en train d'écrire la suite de le roman que j'avais fait il y a 10 ans sur le Mali, Madame Ba, et avec tout ce qui se passe en ce moment. Donc, je fais revenir Madame Ba au Mali d'aujourd'hui. Je fais mes petits livres de mondialisation pour essayer d'expliquer comment ça marche, qui sont des longs reportages. Et puis, il y a ces contes pour les enfants, mais aussi pour les autres. Donc, au fond, j'ai trois écrivains en moi, donc c'est très agréable.
Est-ce que c'est aussi une alarme, un cri d'alarme, ce livre? Est-ce que vous pensez que, alors la langue française, en tout cas, le lexique, le vocabulaire est menacé? Bon, dans le livre, il est question, en effet, de la langue anglaise, la maîtresse. Pourquoi elle s'appelle Laurencin, comme Marie?
Parce que j'adore ce mot, Laurencin, je trouve ça doux. C'est vrai que j'aime bien le peintre, et puis c'est une institutrice, et le mot m'est venu, Laurence, Laurencin, ça m'est venu assez vite. Donc dans tous les livres, cette institutrice s'appelle Laurencin, donc j'aime bien ça. Et alors, c'est vrai qu'on peut avoir une certaine angoisse, si vous voulez. Si on me disait, tu ne parles plus français. Parce que c'est comme ça, les nécessités, voilà, tu parles plus français. Et si en échange du français, on me donnait une autre vraie langue complète, c'est-à-dire on me donne l'anglais, on me donne l'allemand, bon, j'échangerais un univers, le mien, que j'aime tellement, mais contre un autre univers complet. Mais si en échange du français, des 50 000 mots de français, de toutes ces expressions, de cette création multiple, par toutes les classes sociales depuis 12 ou 15 siècles, on peut donner en échange les 400 mots de la langue de la globalisation, qu'on appelle le globish. Alors là, je meurs. J'ai vraiment l'impression que ça serait un déclin terrible, qu'il n'y ait plus. J'ai, dans ce livre, reproduit la carte de Tendre, vous savez, au XVIIe siècle, toute cette carte. Et si on n'avait que 400 mots, il n'y aurait plus la distinction entre amour et amitié. Il n'y aurait plus la distinction entre estime et reconnaissance. Il n'y aurait plus la distinction entre joie, plaisir, bonheur. Donc, on perdrait en distinction, dans tous les sens du terme. On perdrait en diversité. Vous savez, on lutte pour la biodiversité, parce que la biodiversité, c'est la vie. Mais la diversité des mots, c'est la vie de l'âme, c'est la vie de l'esprit, c'est la vie des sentiments. Et donc là, ça serait un drame. Donc c'est un peu pour ça que je tire un peu la sonnette d'alarme, et je dis aux gens, et donc allez, les lecteurs, les petits, les grands, qui disent qu'il n'y a rien de plus amusant que les mots, et en plus c'est gratuit et qu'on peut jouer avec eux. J'étais l'autre jour à une émission France Inter avec Alain Rey, que j'aime tendrement, et alors je le saluais parce que lui, il invente des mots sans arrêt, et en classe, il a inventé assez récemment le mot rhinophéros, une bête terrible qui s'appelle le rhinophéros. Donc immédiatement, les enfants, ils voient ce que c'est. Donc on peut jouer avec. On peut inventer sans arrêt des mots. Et donc voilà, je me dis que c'est dommage, on a ce trésor-là. C'est comme, imaginez, on parle ici, vous n'auriez qu'un seul vin à Bordeaux. J'ai écrit un jour un conte où c'était le cauchemar de Don Juan. Il se réveillait, il n'y avait qu'une seule femme. Elles étaient toutes semblables. Cauchemar. Ben, le vin, c'est pareil. Imaginez, vous avez un seul vin, boum, Côte de Blaye, point. Une seule année, un seul vin. Vous mourrez, d'abord économiquement, et ensuite dans la possibilité de se promener, hein, de passer des grappes. Enfin bon, je ne vais pas vous faire le cours du vin, il se trouve que je suis aussi à l'Académie du vin. Mais, et d'ailleurs, je suis à l'Académie du vin, et je suis même au bureau de l'Académie du vin de France, parce que quand vous êtes au bureau de l'Académie du vin de France, vous faites les voyages d'études. Ce qui a quand même un certain intérêt. Voilà. Donc c'est voilà. Donc je suis une sorte de, j'essaye d'un mini chevalier de la diversité. Voilà. Parce que ce dont il s'agit, c'est la gourmandise. Ce que j'essaye de faire comprendre aux enfants, bien sûr, je suis un prof moi, c'est que évidemment il faut des efforts. Mais en même temps, c'est effort-plaisir. Et plus vous ferez d'efforts, plus vous avez des plaisirs. J'ai commencé le piano il n'y a pas longtemps. Si je faisais que du solfège et je ne jouais pas des petits machins, c'est insupportable. Donc il faut mélanger les deux. Il faut évidemment de l'effort, mais en même temps du plaisir. Et c'est pour ça que j'ai une certaine réticence vis-à-vis de la manière dont on apprend la langue française à partir de la classe de 6e. C'est vraiment, il y a pas mal d'exercices desséchants et pas assez de pratique de la langue. Voilà. Et que le commentaire composé, c'est bien, mais une bonne vieille rédaction qui explique le monde, c'est-à-dire c'est une leçon de regard en même temps qu'une leçon d'expression.
Vous avez dit que si on vous donnait un autre univers, vous accepteriez une autre langue. La langue étant en effet une manière de découper le monde, n'est-ce pas ? Mmh. Et puis après, vous avez parlé de l'amour. Alors, dans le livre, il y a des enfants, je crois, ou la maîtresse, je ne sais plus, qui dit que l'amour n'existe pas sans les mots d'amour. Que ce sont les mots d'amour qui créent l'amour. C'était la théorie de quelqu'un dont j'ai oublié le nom. Je suis un peu comme Madame votre mère, j'ai perché, j'ai perdu la tête, complètement perché. Et comment s'appelait-il ? Enfin, l'amour en Occident, c'était sa théorie. C'est-à-dire que l'amour n'existe que parce que la littérature a créé l'amour.
Est-ce oui, mais c'était alors un de ceux Rougemont. Ah,
Denis de Rougemont,
qui a eu cette phrase formidable qui disait « Les hommes ont inventé la littérature, elle le leur a bien rendu. » Et c'est vraiment mon sentiment. Vraiment. Même quand on ne le sait pas, mais on en a vaguement entendu parler, puis par porosité, ça marche, mais on est vraiment dans l'adultère si on a lu Anna Karénine. Autrement, on est dans un petit coup. Comprenez ? Mais quand on est vraiment dans une longue passion douloureuse de l'adultère magnifique et terrible, et meurtrière et scandaleuse et délicieuse, Anna Karénine, vous lisez Anna Karénine, plus que Madame Bovary, il faut lire évidemment Madame Bovary, mais enfin, bon, c'est moins intéressant. Voilà, pour moi, je trouve, un peu comme ça. Voilà. Donc c'est vrai que, vous savez, les distinctions des mots. Un jour, j'ai rencontré, j'avais 19 ans, un homme merveilleux. Je faisais du bateau à Douarnenez et j'ai vu un homme merveilleux, c'est un poète qui s'appelle Georges Perros. Et Georges Perros, que je vous recommande de lire, Georges Perros, il m'a dit, il faut que vous compreniez, jeune homme, il faut que vous compreniez la distinction entre la volonté et l'énergie. Et là, on est en plein dedans, parce que là, on est inventé par des distinctions. La morale, c'est-à-dire la manière de vivre, est gouvernée par ce genre de distinctions. La volonté, quand quelque chose ne va pas, vous serrez les dents et vous continuez. L'énergie, vous vous demandez pourquoi ça ne va pas, vous arrachez la cause et vous continuez. La volonté a quelque chose lié avec la mort, l'énergie, ce n'est que vie. Et donc, quand vous avez ce genre de distinction en vous, évidemment, vous êtes inventé par ces distinctions. Et il y en a plein des distinctions de ce genre-là. Et donc, les mots nous inventent. Nous inventons les mots, et à notre tour, ils nous inventent. Et Camus et René Char disent des choses à peu près la même chose en disant quelque chose d'assez mystérieux. Les mots savent sur nous des choses que nous ignorons. Et je crois que c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai, parce que c'est une sorte de toit, comme ça. C'est un toit au sens de toiture, au sens de maison. On est là, de la même manière que quand vous trouvez assez vite le nom d'un roman, Vous êtes bien dans ce, sous ce toit et hop, vous, vous explorez. Et petit à petit, le mot il décline sur vous. L'influence des prénoms sur chacun. Et moi, je sais l'influence de mon pseudonyme, Orseda, que j'ai emprunté à Gracq par les sortes de hasards de l'existence. C'est que mon premier livre était publié en même temps que je soutenais ma thèse d'économie. Et Raymond Barre m'a dit, prenez un pseudonyme, c'est mieux. Et brutalement, Gracq est venu. Pas par hasard. Mais le fait que je me nomme une ville, Orsena, qui est la vieille ville du rivage des Sirtes, m'a donné une dimension personnelle beaucoup plus géographique. Et plus ça va, plus je me sens Orsena, alors que l'autre nom est tombé complètement en désuétude, plus je me sens un lieu et pas une personne. Donc, vous voyez, ce genre de choses comme ça, on a tous des mots qui sont les mots préférés. Donc, voilà, ces questions-là. Alors, on pourrait faire des essais un peu, enfin, mille fois plus savants, genre George Steiner, oui. Évidemment, immense George Steiner. Mais déjà, avec ces contes-là, et les retours que j'ai des enfants, c'était amusant, parce que tous mes livres pour les jeunes, je les fais lire par eux, avant. Et c'est eux qui critiquent. Et par exemple, c'est eux qui ont eu l'idée des verbes en disant, mais parce qu'au début, j'avais 50 mots. Ils disaient, ça n'a pas de sens, 50 mots, pourquoi pas 70, etc. Et puis, on a dit, bah, tiens, tu devrais, puisque le dictateur considère que nous sommes trop bavards, eh bien, il n'a qu'à dire des mots qui sont des mots de travail. Alors, j'ai dit, quels sont les mots qui sont des mots de travail? C'est les verbes. Parce que les moteurs de la phrase, c'est les verbes. Et clac, clac, comme ça, vous voyez, on travaille ensemble. Et c'est merveilleux parce qu'ils sont assez violents. J'ai eu dans un livre précédent une histoire vraiment formidable avec une petite fille qui était en CM2, Camille. Et cette petite fille, elle me dit, dans une version précédente de La révolte des accents, elle me dit, écoute, j'ai bien lu, et ta Jeanne, là, elle a 12 ans. Et d'après ce que j'ai lu, parce que je ne suis pas une imbécile, je regarde la télévision, j'écoute ce que font mes parents le samedi matin de l'autre côté de la porte. Donc Jeanne fait l'amour. Alors 12 ans, c'est beaucoup trop tôt. Je voulais te dire ça, Eric, 12 ans, c'est beaucoup trop tôt. Parce que moi, il est dans mes projets de faire l'amour, parce que ça doit être intéressant, agréable et tout ça, mais sûrement pas avant 15 ans et demi, me dit-elle. Donc je vais te dire très franchement, Eric, si tu ne changes pas ton histoire et si Jeanne fait l'amour avant 15 ans et demi, tu vois, Eric, ce que je te dis, plus jamais je lirai un livre de toi. Alors effrayé, j'ai changé l'histoire. Voilà, donc c'est la merveille d'être dans les classes, d'y aller, de revenir, de discuter avec eux et tout ça. Voilà, voilà, voilà l'histoire.
J'ai lu le passage où le mot préféré de Jeanne, c'est préféré. Et on lui demande, ses copains, ses potes, elle lui demande pourquoi. Et elle rougit. Peut-être parce qu'elle a fait l'amour avec son préféré.
Ben et voilà, le préféré qui est assez amusant, comme ça, le porter devant. Donc c'est un mot que je trouve absolument magnifique, préféré. Et quand on est un peu agité du bocal comme moi, c'est vrai que préférence, c'est non seulement un mot préféré, mais c'est une sorte d'aspiration à la préférence. Donc la préférence, c'est vraiment joli au lieu de cavaler tout le temps. Et donc, voilà.
Vous avez dit que vous étiez mis au piano. La musique occupe une place dans le livre. Il y a un personnage de musicien qui est persécuté, d'ailleurs. Pourquoi, je me suis demandé ça devant le public tout à l'heure, parce que j'ai déjà posé les questions, il manquait les réponses. Mais pourquoi deux chansons d'Henri Salvador, la chanson douce, bien sûr, et puis Quand je monte chez toi. D'ailleurs, pour moi, Quand je monte chez toi, c'était une chanson de Jacqueline François. C'était chanté par Jacqueline François. Et c'était le grand succès de Jacqueline François. Pourquoi c'est Henri Salvador? Qu'est-ce qui vous a fait élire ce chanteur?
Parce que c'est avec lui que j'ai commencé la grammaire. C'est avec lui, c'était pas une chanson de lui, mais c'est la mélodie, et c'est lui que j'avais vraiment choisi pour titre, parce que quand vous proposez à un éditeur un livre avec un titre dans lequel il y aura grammaire, il fuit. Il dit, écoute, tu mets ce que tu veux comme titre, mais jamais grammaire. Alors moi, je voulais grammaire dans le titre, mais je voulais un complément qui permette de faire avaler la grammaire. Parce que c'est ça, mon idée, c'est quand même de mettre du sucre, d'édulcorer, de mettre du sucre autour des efforts. Et donc, c'est ça où j'ai eu l'idée. La grammaire, c'est la grammaire, la grammaire. Et moi, j'aime bien la grammaire parce que j'aime bien les grilles, j'aime bien ce qu'il y a sous la diversité du monde, vous voyez, j'aime bien les structures, tout ça. Et donc, je me suis dit, au fond, c'est assez doux, la grammaire. Et pof, chanson douce. Donc, Salvador. Et il se trouve, je connaissais Henri Salvador. Et je l'ai connu à la fin de sa vie. Donc, les 5 dernières années de sa vie, on était vraiment amis. Et j'allais souvent le voir, on discutait, etc. Donc, j'ai voulu continuer. Et lui, on lui reproche aussi d'avoir une musique avec trop de notes. Comme on dit aux gens que, voilà, il y a trop de mots. Donc, parce que c'est la diversité, etc. La même chose. Donc c'est un peu le fétiche d'Henri. Et Henri a eu cette chance inouïe de faire pendant très longtemps des disques qu'il n'avait pas envie de faire, qui ne marchaient pas du tout, mais que les producteurs lui disaient de faire. Et puis, il a eu ces 2 derniers disques qui ont marché énormément parce qu'il refaisait exactement ce qu'il voulait faire, avec sa voix inchangée. Et Henri, j'ai vu son avant-dernier concert, il était magnifique. Donc, il était à la Porte Maillot, là, la salle des congrès, 4200 places, il était là. Et il disait... Avant le concert, j'ai 50 ans. Pendant le concert, j'ai 30 ans. Après le concert, j'ai 130 ans. Et il était magnifique. À la fin, il a chanté quand même jusqu'à l'extrême limite de ses forces. Et sa voix, alors il avait moins de souffle, mais sa voix inchangée. Cette douceur incroyable d'accompagnement de la mélodie. Enfin, j'aimais tendrement cet homme. À chaque fois, vous voyez, c'est des petits saluts. C'est un salut à Jacqueline de Romilly. C'est un salut à la fois des jeunes, des vieux, des tout ça. Donc, dans les livres que je fais, c'est l'occasion toujours de dire merci et de dire à des gens que j'ai aimés que j'aurais dû leur dire plus que je les aimais.
Dernière question, et puis on va s'arrêter. Vous dites, bon, ça y est, maintenant, c'en est fini de la langue française. Alors, vous avez commencé comme ça, de faire une déclaration d'amour à la langue française. Vous avez parlé des séances du dictionnaire. Avant que vous n'arriviez, je m'étais demandé publiquement si vous assistiez le jeudi matin. La réponse est oui, n'est-ce pas ?
Alors, oui, sauf la preuve, non, puisque aujourd'hui, on est jeudi.
Sauf aujourd'hui. Et non, on est... Bon, faut pas.
Ah, on est jeudi. Bon. Ah, jeudi. Il y a pas. Y a
donc,
pas...
vous avez dit, vous avez dit deux choses jeudi. Que vous adoriez la langue et en même temps que c'était le dernier livre sur cette question-là. Et puis, parallèlement, vous pensez déjà à une autre édition, revue complétée. Est-ce que vraiment vous allez abandonner ce
Non, c'est les adieux oui. Les plus anciens d'entre nous l'ont connu, les Maurice Chevalier. Voilà. Et c'est là et qui disait que j'arrête et puis hop, il trouvait un groupe qui lui plaisait, il dit Mitchell et les chaussettes noires, et il y a un disque insensé de Maurice Chevalier avec les chaussettes noires, et c'est voilà ce genre de choses. Donc on va voir, j'ai le dernier comme ça, mais c'est peut-être pas du tout le dernier, donc on va voir, pourquoi pas, enfin tout ouvert, c'est la merveille, c'est quand même cette liberté là complète. Et donc, on va voir. Mais en tout cas, les mots qui m'arrivent sont merveilleux parce qu'il y a des gens qui inventent des mots. Et encore une fois, les mots sont pertinents. Alors, la question de l'invention, c'est qu'il faut que les mots soient compris par les autres. Parce qu'on invente, c'est amusant. Mais si chacun invente sa langue, évidemment, elle dit bien pour la personne. Mais il faut que ça communique avec les autres. C'est quand même aussi ça. La langue, elle doit dire. Mais vous voyez, un des périls de la langue, c'est... quand on n'ose pas dire les choses. Et comme on est de plus en plus correct, on n'ose pas dire les choses. Par exemple, on dit malvoyant, au lieu de dire, à l'intérieur des malvoyants, on dit aveugle. Et Jacqueline de Romilly me disait, mais attendez, quand vous m'avez connue, j'étais malvoyante, maintenant je suis totalement aveugle. Donc, il faut nommer. Et on n'ose plus dire mademoiselle, on n'ose plus dire machin, on dit technicien de surface, on dit tous ces trucs-là. Donc on édulcore, c'est-à-dire on entoure la réalité du monde avec des sortes de douceur, de sucre, de n'importe quoi. Alors que la langue, il faut dire la violence, il faut dire la tendresse, il faut oser dire
une langue qui ne dit pas.
Et la mort, et la mort, et de la même manière, je suis... C'est hallucinant, on n'ose pas dire l'entièreté de l'existence. Donc on cache la mort, on cache la violence, et plus on cache la violence, plus il y a de la poussière sous le tapis. Et à ce moment-là, une langue qui ne dit pas n'est plus légitime. Donc moi, je suis beaucoup plus inquiet par ce genre de montée de la correction correction d'ailleurs au sens de comme si on corrigeait le monde tel qu'il était, enfin par les verbes, ou de ne pas voir que par les arrivées de mots étrangers. Vous voyez ? Mais j'aborde aussi cette question parce que évidemment les mots nouveaux sont liés aux recherches et à la puissance économique, bien sûr, comme toujours. Quand ça a été le monde arabe, algèbre c'est arabe, jardin c'est arabe, magasin c'est arabe, etc., etc. Parce que c'était, ils étaient en avance. Et donc maintenant, c'est toute la sphère anglo-saxonne. Donc il faut cavaler pour essayer de trouver des mots pour que la modernité soit aussi dans la langue française et qu'on ne soit pas en dehors. Autrement, on peut dire qu'il y a des domaines entiers de la modernité, de la science et de la technique qui ne seront plus le domaine de la langue française. Donc on aura une sorte de... Vous voyez, de peau de chagrin et de sorte de voilà de musée de réserve luxueuse. Donc on sera une économie du luxe, mais plus du tout une économie de production, une économie industrielle.
Et le fait que certains enseignements, justement, dans ces matières scientifiques ou économiques, soient dispensés en anglais, ça vous plaît ?
Alors c'est une question difficile et très très intéressante. D'abord, la première question, c'est est-ce qu'il fallait une loi pour ça ? Ma réponse est non. J'ai été conseiller d'État et donc j'étais conseiller juridique du gouvernement et donc la manie de la France, c'est à chaque fois de faire des lois. C'est-à-dire, on pense que quand on a fait une loi, on a agi. Mais on peut très bien agir sans faire des lois. Et quand on fait une loi, ça fige la solution pour l'ensemble du territoire. Donc, première, la question, c'est la question de la loi. La deuxième question, c'est une question très intéressante, c'est que les jeunes des classes favorisées, en général, parlent beaucoup mieux les langues étrangères que les gens issus des classes moins favorisées. Pourquoi ? Parce que dans les classes favorisées, il y a deux raisons. D'abord, on les envoie dans les summer camps, dans les choses comme ça, etc., parce qu'on a les moyens de le faire. Et aussi parce que, de plus en plus, ceux qui sont reçus dans les grandes écoles viennent des classes favorisées, et notamment des enseignants ou des cadres. Et donc, on a maintenant, il commence à y avoir des vraies passerelles, mais on a de plus en plus de difficultés par rapport aux années 50, quand on est fils ou fille de classe moins favorisée, d'intégrer les grandes écoles. Et dans les grandes écoles, un bon tiers des enseignements sont déjà en langue étrangère. Donc, donner la possibilité dans les universités d'avoir des cours en langue étrangère, oui. Mais deux remarques. D'abord, il faudrait quand même qu'on se rende bien compte qu'on ne viendra pas en France pour la qualité de l'anglais. Autrement, on irait plutôt vers les États-Unis. Pourquoi est-ce qu'on viendrait à Bordeaux, à Paris, à Brest pour apprendre l'anglais ? Il vaut mieux, tant qu'à faire, aller à Harvard ou même à Singapour. Donc, c'est la première chose. Donc, essayez de voir ça. Deuxièmement, si les gens viennent ici, les étrangers, il faut quand même que dans les cursus, pour avoir le diplôme, il y ait quand même une part de français. Et troisième remarque, pourquoi seulement l'anglais ? On aurait plus d'originalité si on avait un cursus avec du mandarin ou si on avait cursus plus poussé avec de l'espagnol, puisque les États-Unis, dans 25 ans, seront majoritairement hispanophones. Donc, vous voyez, s'il y a une vision à la fois trop générale, un petit peu rétrograde, avec un problème complexe et qui répond à des besoins à la fois sociaux et des besoins culturels. Donc voilà, donc c'est nuancé. Je ne suis pas contre, je ne suis pas pour non plus, mais j'aurais été ministre, je n'aurais pas fait de loi. Voilà, ça ne veut pas dire que je n'aurais pas favorisé dans ce domaine et voir les cursus en fonction des matières, en fonction des lieux, etc.
On avait dit une demi-heure, on a dépassé la demi-heure.
Ah mais oui, il faut m'arrêter parce que
oui,
j'ai des arrière-grands-parents cubains.
Vous avez dit que votre pseudonyme, ça venait du roman de Julien Drac qui s'appelle Le Rivage des Sirtes. Et vous avez dit que c'était une ville, Orsena. Si je me souviens bien, ça fait longtemps que je n'ai pas relu Le Rivage des Sirtes. C'est une principauté. C'est la principauté d'Orsena.
Oui, oui. Non, mais alors je voulais vous pas, dire, c'est mon humilité.
Oui, c'est votre humilité. Donc je voulais vous dire, comme à la fin des sonnets médiévaux, merci prince, merci mon prince.
Merci, merci, merci. Le niveau.